une appli connectée à notre région.
Jeudi 15 janvier, bon réveil. Merci de votre fidélité, il est 5h. À la une du journal, un procès emblématique s'ouvre ce matin aux assises du Loir-et-Cher.
C'est le procès d'une tentative de féminicide. Décembre 2022, l'affaire choque la France entière. Chloé, 24 ans, se rend au commissariat de Blois pour porter plainte contre son ancien compagnon violent. Le policier refuse la plainte, lui demande de repasser le lendemain. Deux heures plus tard, Chloé est violemment agressée dans le hall de son immeuble par son ex-conjoint. Elle est laissée pour morte et passera 2 mois dans le coma.
Une affaire révélatrice de la méconnaissance des situations des victimes, c'est ce que dit l'avocate de Chloé, Maître Steyer, mais elle le rappelle, ce n'est pas le procès du policier qui n'a pas pris la plainte. Lui a été suspendu, d'abord par sa hiérarchie, puis mis à la retraite d'office. Il est toutefois cité et devrait bien s'exprimer lors de ce procès où l'accusé est donc l'ex-conjoint de Chloé, défavorablement connu de la justice. Il a 14 condamnations à son actif, affirme l'avocate de Chloé, notamment pour des violences sur de précédentes compagnes, ce qui interroge cette fois le suivi de cet homme d'une trentaine d'années. Lui reconnaît les violences, mais dit qu'il n'a pas voulu tuer Chloé. La jeune femme a passé 2 mois dans le coma, souffre de séquelles irréversibles, perte de l'usage de l'œil droit, lésions cérébrales, perte d'audition. Elle pourrait être présente à Blois, suivre une partie des débats, malgré ses infirmités et une amnésie des événements.
Nous allons suivre ce procès sur votre radio ici. L'ancien compagnon de la jeune femme est en détention provisoire depuis les faits. Il encourt la prison à perpétuité.
Un conseil de défense est convoqué en urgence ce matin à l'Élysée.
Deux sujets brûlants sur la table, les manifestations réprimées en Iran et les menaces américaines sur le Groenland. On l'a appris hier soir, la France va participer à une mission militaire au Groenland avec plusieurs pays européens. Des militaires français sont même déjà en route. Groenland, territoire danois, Virginie Pironon.
C'est à la demande du Danemark, précise le chef de l'État, que Paris participe à cette mission de reconnaissance dans le cadre de l'opération Endurance Arctique. Selon l'AFP, je cite, « La France envoie des membres d'unités de montagne aguerris au climat froid ». Autre pays qui contribue à cet exercice commun, la Suède, la Norvège, l'Allemagne. Berlin envoie également 13 membres de son armée sur place dès aujourd'hui. Il s'agit de tenter de définir, je cite, « d'éventuelles contributions militaires pour soutenir le Danemark ». Par exemple, dans le domaine des capacités de surveillance maritime. Tout un symbole, une manière pour les pays européens d'afficher leur solidarité avec le Danemark, accusé par les États-Unis de ne pas s'engager suffisamment pour la sécurité arctique. Donald Trump campe sur ses positions. Hier encore, à l'issue d'une rencontre à la Maison-Blanche, Copenhague a affiché, je cite, « son désaccord fondamental avec le président américain » et dénoncé sa volonté de conquérir le Groenland. À Paris, un conseil de défense est convoqué en urgence ce matin pour évoquer la situation.
Et c'est dans ce contexte troublé qu'Emmanuel Macron va présenter ce midi ses vœux aux armées, moment toujours très attendu. Il doit donner ses orientations en matière de défense nationale. Une cinquantaine de militants de la Confédération paysanne ont été placés en garde à vue hier. Ils ont forcé l'entrée d'une annexe du ministère de l'Agriculture à Paris. Ils ont été délogés dans le calme. D'autres actions sont prévues ailleurs en France. La FDSEA et les jeunes agriculteurs prévoient notamment de bloquer des ponts dans 11 villes des Landes aujourd'hui. Et le blocage du dépôt pétrolier de Vatry dans la Marne se poursuivait hier soir avec une vingtaine de tracteurs. Vous l'avez sans doute constaté, Johan, le rayon œuf est quelque peu dégarni ces derniers temps dans nos supermarchés. La ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, propose donc un poulailler de plus par département et par an jusqu'en 2030. Elle explique que le manque d'œufs dans les rayons est dû à un excès de règles qui freinent la production alors que la demande augmente.
L'équipe de France entre en lice à l'Euro masculin de handball.
Match à 18h, notez bien, contre la République tchèque. Nos Bleus, rappelons-le, sont champions d'Europe en titre. Et oui, mais attention, la concurrence est toujours plus rude. C'est l'avertissement du capitaine tricolore Ludovic Fabregas.
C'est vrai que le niveau augmente au fur et à mesure des années. Il y a de moins en moins de différences et d'écarts entre toutes les nations, entre toutes les équipes. Mais c'est aussi un sacré défi pour nous. On a vraiment la volonté d'écrire aussi notre histoire pour ce groupe-là et de continuer à ajouter des lignes au palmarès du handball français. Ce championnat d'Europe est la prochaine étape. On a cet objectif, on sait qu'il est difficile, mais quand on porte le maillot d'équipe de France, on a ce devoir de résultat permanent. Donc on va essayer d'aller décrocher un nouveau sacre européen qui serait aussi potentiellement historique après le sacre de 2024. 2024.
Bon, vous avez votre petit calendrier sportif, oui. J'espère, Johan. Vous notez France-République tchèque ce soir 18h, France-Ukraine ce sera samedi, et on a un joli France-Norvège dès lundi. Voilà le programme donc de ce tour préliminaire de l'Euro. Il ne reste plus qu'à dire, allez les Bleus. La météo, Yoann Guérin, s'est perturbée sur le nord-ouest.
Ouais, en matinée, une nouvelle perturbation apporte un ciel couvert, des pluies soutenues sur la Bretagne, puis vers la Normandie. À noter le département du Finistère qui entre en vigilance orange, pluie inondation à partir de 6h ce matin. Cet après-midi, les pluies gagnent les pays de la Loire et l'ouest des Hauts-de-France, puis glissent des Ardennes à l'Aquitaine en cours de nuit prochaine. Le vent, lui, souffle de 50 à 70 km/h sur un quart nord-ouest, avec des pointes jusqu'à 100 km/h sur les côtes. Sur le Languedoc-Roussillon et le Massif central, les entrées maritimes restent présentes, donnent encore des pluies plus régulières sur les Cévennes. À noter aussi le vent qui se renforce des Pyrénées au Massif central et en vallée du Rhône. Sur le reste du pays, la matinée est plutôt calme, avec des brouillards qui sont fréquents dans le sud-ouest et le nord-est. Prudence si vous êtes au volant ce matin. Le temps deviendra plus lumineux cet après-midi. Les températures, nous avons relevé en ce moment à Clermont-Ferrand 6 degrés, à Strasbourg, Bordeaux et Toulouse 7, à Rennes, Caen et à Metz 8, 9 degrés à Paris, Lille, Nantes, Tours et à Nîmes, 10 degrés à Marseille. Et puis les maximales, toujours 12, de 9 à 13 degrés sur la moitié nord, de 10 à 15 au sud, jusqu'à 18 degrés vers le Pays Basque.
Ici,
actu locale, musique et bonne humeur.
5h06, très bon réveil, on vous souhaite un bon jeudi. Et il débute très bien avec Étienne Dao et Dany, comme un boomerang.
Je sens des booms et des bangs, agiter mon cœur blessé. D'amour comme un boomerang, me revient des jours passés. À pleurer les larmes dingues d'un corps que je t'avais donné. J'ai sur le bout de la langue ton prénom presque effacé. Tordu comme un boomerang, mon esprit l'a rejeté. De ma mémoire qu'à ma bringue, et ton amour m'ont épuisé. Des bombes et des bandes, agiter mon cœur blessé. L'amour comme un boomerang, me revient des jours passés. À s'aimer comme des dingues,
comme de fous alliés. Sache que ce cœur exsangue pourrait un jour s'arrêter. Si, comme un boomerang, tu ne reviens pas me chercher. Peu à peu, je me déglingue, victime de ta cruauté.
Je sens les boums et les bangs agiter mon cœur blessé. L'amour comme un boomerang me revient des jours passés. À t'aimer comme une dingue, prête pour toi à me damner.
Toi qui fais partie du gang de mes séducteurs passés, prends garde à ce boomerang, il pourrait te faire payer toutes ces tortures de cingles que tu m'as fait endurer.
Je sens les boums et les bangs agiter mon cœur blessé. L'amour comme un boomerang me revient des jours passés. C'est une histoire de dingue, une histoire bête à pleurer.
Ma raison vacille et tangue, elle est prête à chavirer. Sous les coups de boomerang, de flashbacks enchaînés. Et si un jour je me flingue,
c'est à toi que je le devrais.
Un duo mythique, Étienne Dao et Dany, comme un boomerang à 5h09 sur votre radio ici.
Ici, dès 5h,
Johan Guérin,
Aude Razo.
Aude, vous connaissez cette musique ?
Ça, c'est l'entrée sur le terrain des joueurs du PSG, bah, il me semble.
Exactement. Attention, parce que le PSG ne veut plus seulement faire trembler les filets, il veut aussi faire vibrer vos enceintes. Le club de la capitale vient d'annoncer le lancement du Ici, c'est Paris Music Lab, un projet plutôt ambitieux qui va transformer en fait le Parc des Princes en studio d'enregistrement géant du 27 février prochain au 1er mars.
Ah oui.
Alors l'idée de ce camp de création, c'est de réinventer un peu l'identité musicale du club. En fait, composer les futurs jingles de but, les sons aussi exclusifs pour les réseaux sociaux et une mixtape collector intitulée Ici c'est Paris. Alors pour encadrer tout ça, le PSG a vu plutôt grand un partenariat avec Universal Music. Il y aura aussi la présence de certains rappeurs pour encadrer ces séances. Il y a notamment Nono La Grinta, El Grande Toto et Carbone. Alors le club mise aussi sur la relève aussi, avec un appel à candidature qui vient d'ouvrir pour permettre à de jeunes talents, auteurs, compositeurs ou même interprètes, d'intégrer ces sessions d'écriture aux côtés des pros. Les candidatures sont donc officiellement ouvertes. Je précise que ce n'est pas uniquement ouvert aux Parisiens et aux supporters du PSG, mais c'est quand même mieux.
Je doute que le rappeur Jules vienne participer.
Oui, ça, je suis d'accord.
Voilà, je pense que les Marseillais n'ont pas très envie d'y participer.
Bon, en tout cas, 5h10 dans l'actualité ce jeudi, Aude.
On va tendre, Johan, le micro ici à un agent recenseur. Vous pourriez en voir dans les prochains jours. C'est parti pour la campagne de recensement de la population.
Côté musique, on se réveille au son des Enfoirés. Se casse, c'est l'hymne 2026 des Enfoirés. On l'écoute avant 5h30, mais avant, par ici les économies.
Par ici les économies, avec Banque Populaire, engagée aux côtés de ceux qui entreprennent. Banque Populaire, la réussite est en vous.
Bonjour Valère Coréard.
Bonjour Johan, bonjour Aude.
Bonjour.
Chaque jour avec vous, un bon plan pour notre pouvoir d'achat. Aujourd'hui, on va parler des déstockeurs.
Oui, je voulais faire un point avec vous sur ce type de magasin. Il y en a un petit peu partout, en physique, sur le net aussi, et ils sont sur tous les secteurs, hein, habillement, bricolage, décoration, alimentation. Alors c'est vrai que ça peut être un super bon plan budget, les déstockeurs, mais à condition de comprendre les règles du jeu et surtout de savoir faire la différence entre les vrais déstockeurs et le reste. Un déstock, c'est un magasin dans lequel vous allez trouver des produits que le circuit classique ne veut plus. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas conforme, que c'est cassé d'occasion, mais ça veut dire qu'il y a trop de stock. On est sur des invendus de saison, des produits dont l'emballage n'est plus aux couleurs de la marque ou dans le cadre de faillite. Comme les marques préfèrent, bien sûr, vendre à très bas prix plutôt que de détruire leurs invendus, les déstockeurs vont pouvoir acheter d'importantes quantités et faire bénéficier les consommateurs de prix imbattables.
Bon, des prix bas, des articles conformes, ça c'est tout bénef pour nous les consommateurs, Valère.
Oui, les déstockeurs, c'est un bon plan budget. Hein. Clairement, vous pouvez espérer du moins 40, moins 50, moins 70% parfois par rapport au prix classique. Alors bien sûr, on est dans des magasins assez basiques, hein, qui jouent d'ailleurs la carte hard discount bien souvent. Attention quand même, avant d'acheter un article, moi je vous suggère un petit réflexe facile à mettre en œuvre. Comparer son prix en ligne avec les autres enseignes pour vous assurer de faire une bonne affaire. Mais c'est une piste vraiment intéressante et vous avez pas mal d'enseignes d'ailleurs qui sont bien implantées partout en France, comme Noz par exemple, ou encore Stockomanie. Et si vous êtes déjà adepte des déstockages ou que vous avez peut-être aussi des bons plans conso pour faire des économies, pensez à m'écrire. Mon mail, c'est parisidéséconomies@radiofrance.com.
Merci beaucoup Valère. Demain, on parlera, tiens, avec vous du sport sur ordonnance, parce que c'est bon pour votre santé et aussi celle de votre porte-monnaie. On vous donnera tous les conseils. En attendant, par ici les économies, c'est à retrouver en podcast sur ici.fr.
L'hiver s'étire et vos valises rêvent secrètement de retrouver le soleil.
Voyage, voyage!
Pas de panique! Écoutez, ici, dès le 26 janvier, on vous offre 10 000 euros de vacances.
Ici, dès 5 heures.
5h14, top départ aujourd'hui pour le recensement de la population.
Et on avait envie ce matin de s'intéresser à ces agents recenseurs qui vont là peut-être toquer chez vous si vous êtes concerné par le recensement de cette année. L'agent recenseur, sachez-le, il est recruté par votre commune. Cédric Cato a rencontré l'une d'entre eux, Brigitte, recrutée par la mairie de Pontarlier.
Ce sera son troisième recensement à partir d'aujourd'hui et c'est tout sauf une corvée pour cette retraitée.
C'est la période où on sort le moins et on voit le moins de monde. C'est agréable parce qu'on est obligé de sortir, ça nous pousse et puis ben, on rencontre plein de monde. Donc on discute, c'est agréable.
230 logements à recenser pour elle, avec toujours la même procédure.
On doit donner les codes internet au départ. Si D'ici quelques jours, on voit que les gens n'ont pas répondu par Internet. On repasse, leur demander s'ils veulent répondre sur papier.
Ils vont être 4 à sillonner la ville, recrutés par la mairie.
Moi, qu'ils soient sociables, qu'ils aiment parler aux autres.
Dina Silva est responsable du service État civil à Pontarlier. Pour ses agents, il faut bien connaître la commune.
Parce qu'il y a des fois, il y a des adresses, soit la maison a été détruite, l'immeuble a été détruit, soit c'est du nouveau lotissement où il n'y a pas encore les numéros. Et comme nous, par exemple, dans une même rue, on va peut-être avoir à recenser une seule maison. Il faut la trouver quand c'est des bis, des terres, des... Voilà. C'est des détectives.
Dans l'immense majorité des cas, le recensement se passe très bien.
Des fois, on boit des cafés. Hein. En général, on est très bien reçu.
Mais parfois, il faut insister pour que les formulaires soient complétés, reconnaît Dina Silva de la mairie de Pontarlier.
Nous, on a des agents recenseurs qui en veulent, donc elles repassent 2, 3, 4, voire 5 fois. Alors, c'est pas du harcèlement, contrairement à ce qu'on nous dit, hein, parce que on est quand même accusé de harcèlement par certaines personnes. Mais voilà, c'est mieux quand même. Et puis l'INSEE contrôle où en est le recensement aussi. Hein. Il faut que ça avance.
Répondre aux questions du recensement est obligatoire. Dans notre région, plus de 97% des habitants ont participé l'an dernier. C'est mieux qu'au niveau national.
Et la région en question, c'est la Franche-Comté. Merci Cédric Lieto. Le recensement 2026, top départ. Donc aujourd'hui, 9 millions de Français quand même vont devoir répondre au fameux questionnaire. Si c'est votre tour, vous serez prévenu dans la boîte aux lettres.
Et pour savoir si votre commune est concernée, on vous a mis un moteur de recherche sur ici.fr. Vous avez juste à rentrer le nom de votre commune. 5h16, si vous aimez les enquêtes policières, la saison 3 de Master Crime fait son grand retour ce soir sur TF1 avec notamment Muriel Robin et aussi l'humoriste Thaïs Vauquier. Justement, cette dernière s'est confiée dans Coulisses Télé sur son expérience de tournage. Mais avant, place à Abba avec Fernando. Bon réveil. Can you hear the drums, Fernando? I remember long ago, another starry night like this. In the firelight, Fernando, you were humming to yourself and softly strumming your guitar. I could hear the distant drums and sounds of bugle calls were coming from afar. They were close now, Fernando. Last eternally. I was so afraid, Fernando. We were young and full of life, and none of us prepared to die. And I'm not ashamed to say the roar of guns and cannons almost made me cry.
Shining there for you and me, for liberty, Fernando.
Abba, 5h20 sur votre radio ici. L'éphéméride de ce 15 janvier, on souhaite un bon anniversaire à l'ancienne joueuse de tennis, Marie Pierre, 51 ans aujourd'hui. Et puis Reda Kateb, 49 ans, acteur qui est en ce moment à l'affiche du film L'affaire Bojarski, qui est sorti d'ailleurs hier au cinéma et qui raconte l'histoire d'un jeune ingénieur polonais réfugié en France pendant la guerre, qui utilise ses dons pour fabriquer des faux papiers pendant l'occupation allemande. Date importante qui va vous parler aussi, qui a peut-être sauvé plus d'un lors d'un exposé à l'école. 15 janvier 2001, Wikipédia est créé. Ben oui, au fil des années, Wikipédia est devenue l'une des principales sources d'infos en ligne, couvrant un large éventail de sujets dans de nombreuses langues, et une plateforme qui s'est développée, plateforme un peu collaborative, donc grâce à la contribution de bénévoles du monde entier. C'est vrai que ça nous a aidé.
Et maintenant, les élèves n'utilisent plus Wikipédia, ils utilisent ChatGPT.
Exactement.
Ici, dès 5h.
Pour bien commencer la journée.
On retrouve Patrice Gascon avec ses coulisses télé. Aujourd'hui, Patrice, vous nous parlez d'une série de TF1 qui a fait son retour la semaine dernière pour une saison 3. Place donc à Master Crime.
Au cas où les présentations n'auraient pas été faites lors des deux saisons précédentes de Master Crime.
Je me présente, Louise Arbus, professeur en criminologie. La meilleure, je pense.
Muriel Romain vous a tout dit. Elle incarne donc Louise Arbus dans Master Crime, une célèbre professeure de criminologie sur TF1. Elle fait équipe avec une policière assez rigide, mais qui se détend au fil des saisons, jouée par Anne Lenen. Mais la particularité de Louise Arbus, c'est qu'elle mêle à ses enquêtes quelques-uns de ses élèves. Et parmi eux, il y a Valentine, à qui la dynamique et souriante Thaïs Vauquier prête ses traits. Thaïs, à qui j'ai demandé de nous dévoiler l'évolution de son personnage tout au long de cette saison 3. Thaïs Vauquier.
Alors, cette saison, Valentine, elle a enfin compris qu'elle pouvait être intelligente et que, voilà, elle a eu la confiance par Louise Arbus, qui est donc jouée par Muriel Robin. Et en fait, elle va les aider vraiment sur le terrain. Donc, c'était trop chouette à jouer parce qu'il y avait un truc d'agent secret que moi, j'ai toujours rêvé de jouer, évidemment, quand on regarde les films. Elle a un petit côté 77 où elle peut gaffer et tout, mais on sent qu'elle a pris confiance et c'est trop, trop sympa. Et surtout, j'ai eu plein de costumes différents. On a joué dans un couvent. Enfin, c'était exceptionnel. Je vous invite à regarder la scène où je chante très mal dans une chorale, dans un couvent. J'aurais pas cru dire ça un jour.
Dites-moi, Thaïs Vauquier, est-ce que la diffusion de Master Crime a changé quelque chose à votre carrière ?
Disons que je peux vivre ma vie assez tranquillement. J'ai pas besoin de mettre une cagoule ou des lunettes de soleil, même si parfois je le mets parce que je crains la pluie et que j'ai de l'eczéma sur les yeux. Mais je l'ai vraiment ressenti quand j'ai fait Série Mania et que les gens m'appelaient Valentine tout à coup. Au-delà de ça, ça m'a donné la confiance, mais en tout cas moi, en tant que Thaïs, vraiment de jouer avec cette équipe. Et moi, je suis tellement contente chaque année de retrouver mon personnage pour savoir ce qui lui arrive. Et quand le scénario il arrive, je suis là, yes.
Thaïs Vauquier ce soir dans Master Crime sur TF1 et à voir sur scène avec son One Woman Show, Fille de Joie. À demain pour de nouvelles coulisses télé avec Gilles Alma pour parler de César Wagner.
Merci Patrice Gascon, on sera au rendez-vous 5h23. On parle beaucoup de la droite, de la gauche en politique, à juste titre en plus avec les élections municipales qui approchent. On est à 2 mois des élections municipales. Mais à quel moment de l'histoire de France sont nés ces termes justement ? Et bien, réponse avec Stéphane Bern dans les prochaines minutes pour son voyage dans le temps. Mais avant, c'est le nouvel hymne des enfoirés, Ça se casse. Et c'est ici, diffusé sur votre radio ici, la radio des restos, choisie par les bénévoles.
Moi je fuis la rancœur à ceux qui n'ont plus rien, sans idéologie, discours ou baratin. On vous promettra pas les toujours du grand soir, mais juste pour l'hiver, à manger et à boire.
Volets fermés, t'as touché le vent tendu,
la machine à penser est cassée.
Si tu crois qu'on a trop...
Toutes les lettres y sont passées.
Se casse le nouvel hymne des Enfoirés sur votre radio. Ici, à noter que toute cette semaine, d'ailleurs, se déroulent les concerts des Enfoirés à Paris, à l'Accor Arena. On vous fera vivre très bientôt les coulisses de ce grand show dans votre rendez-vous ici dès 5h. En attendant, un peu d'histoire avant l'actu. Stéphane Bern, ce matin, 5h28, on voyage au temps de la Révolution française.
C'est un petit jeu de chaises musicales qui a fait naître, dans la politique française, la gauche et la droite. C'est un 11 septembre en 1789 que cette histoire de droite et de gauche a commencé. Nous sommes à Versailles, dans la grande salle des menus plaisirs, une sorte de carré VIP des puissants de l'époque. L'Assemblée constituante débat d'un sujet explosif. Le roi doit-il pouvoir bloquer les lois votées par les députés ? Les uns veulent un veto absolu pour Louis XVI, pour garder un peu d'ordre, les autres un veto seulement suspensif, histoire de faire une vraie révolution, ou presque. À droite du président, côté d'honneur, en tribune or, prennent place les partisans d'un roi fort. Mounier, l'abbé Maury, Casalès, bref, ceux qui aiment bien quand ça reste carré. À gauche, Robespierre, Pétion, ce sont les champions de la souveraineté du peuple, convaincus qu'on ne détrône pas un roi pour finalement lui donner un joker. Le 11 septembre, le vote tombe, 325 voix contre 673. Le veto royal ne sera que suspensif, valable 2 législatures. En résumé, Louis XVI peut encore freiner, mais la révolution, elle, vient de passer la seconde. Mais surtout, le clivage est né. Quand l'Assemblée s'installe à Paris, en octobre, dans la salle du manège, les habitudes suivent. À droite, on veut calmer le jeu. À gauche, on veut aller jusqu'au bout des idéaux de 1789. Et celui qui confond sa droite et sa gauche risque d'être plutôt mal reçu dans le camp d'en face. La gauche, la droite, deux camps, deux visions de la Révolution, puis de la République. Et depuis, 2 siècles de discussions pour trancher, mais sans guillotine cette fois.
Merci Stéphane Bern. Voyage dans le temps, retrouvez sur ici.fr. Vous prenez le volant chaque matin pour aller au travail, déposer les enfants à l'école. Nous, on vous offre une carte carburant de 50 euros pour vous donner un coup de pouce en ce début d'année. 0810 055 056. Nous sommes le jeudi 15 janvier dans l'info du jour. C'est un procès qui s'ouvre à Blois. Procès pour une tentative de féminicide qui a défrayé la chronique. On y revient dans moins de 2 minutes. Mais avant 5h30, toute l'actualité en France et dans le monde, c'est le 90 secondes avec vous, Drazon.
Des militaires français sont en route pour le Groenland et d'autres suivront, annonce d'Emmanuel Macron. La France participe à une mission militaire européenne pour, je cite, d'éventuelles contributions destinées à soutenir le Danemark, le Groenland, territoire danois, convoité par Donald Trump. Une cinquantaine de militants de la Confédération paysanne interpellés, placés en garde à vue. Ils ont forcé hier l'entrée d'une annexe du ministère de l'Agriculture. L'évacuation s'est faite dans le calme. Le syndicat dénonce le mépris constant du gouvernement envers les paysans et il appelle à un rassemblement devant le commissariat. La ministre de l'Agriculture propose un poulailler de plus par département et par an jusqu'en 2030. Réponse au manque d'œufs dans nos supermarchés. Les rayons sont dégarnis. Annie Genevard annonce un projet de loi pour faciliter la production avec des règles plus simples et moins contraignantes. Attention à la grippe, l'épidémie menace de reprendre. Santé publique France s'inquiète de voir le virus augmenter chez les enfants. Les médecins sont davantage sollicités ces derniers jours. Et la conséquence, c'est une possible recrudescence à venir de la grippe chez les adultes. Le Maroc face au Sénégal, ce sera à l'affiche de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Le Maroc, pays hôte, se qualifie in extremis au tir au but face au Nigeria. La finale aura lieu dimanche à Rabat. À suivre aussi, c'est ce soir cette fois, l'entrée en lice des handballeurs français à l'Euro. France-République Tchèque, c'est à 18h. Nos Bleus sont champions d'Europe en titre. Ils joueront tout le tour préliminaire en Norvège.
L'info du jour, c'est l'ouverture d'un procès emblématique des violences faites aux femmes.
Emblématique aussi des dysfonctionnements dans l'écoute et la prise en charge des victimes. Souvenez-vous, décembre 2022, Chloé est laissée pour morte à l'entrée de chez elle à Blois, violemment agressée par son compagnon. La jeune femme revenait en fait tout juste du commissariat où elle voulait porter plainte, mais la police lui avait demandé de repasser le lendemain. Delphine Evenou.
Chloé a passé 2 mois dans le coma. Elle a perdu un œil, le goût, l'odorat, une partie de l'audition, le souvenir aussi de ce qu'elle était, ce qu'elle aimait et de sa violente agression. Le 13 décembre 2022, son ex-conjoint revient la voir alors que Chloé a rompu après 3 mois d'une relation marquée par les insultes, les menaces, quelques coups aussi. Une dispute dans la rue, interrompue par la police municipale. Chloé part ensuite porter plainte 3 minutes au commissariat. On lui demande de revenir le lendemain. Elle est laissée pour morte le soir même. La police a failli à sa mission de protection, selon Isabelle Steyer, son avocate.
La question est de savoir quels sont les cas de gravité qui doivent être pris en charge immédiatement. Dans quelle situation de danger sommes-nous pour faire en sorte qu'elle ne retourne pas chez elle ou lui laisser penser qu'elle est elle-même en situation de danger. C'est tout un paradigme qui est à changer. On n'enregistre pas une plainte, on protège quelqu'un.
Le major de police qui n'a pas pris la plainte a été suspendu puis mis à la retraite d'office 1 an plus tard. Une affaire alors très médiatisée. Stéphane Rapin est l'avocat cas de l'accusé.
Le procès avant même d'avoir lieu lui a déjà échappé, puisqu'on est passé du dossier de Marvin Joly à l'affaire Chloé. La justice, quand elle cherche à faire un exemple, c'est toujours un risque parce qu'elle n'est jamais exemplaire.
Son client avait déjà été condamné pour des violences conjugales. Il a toujours reconnu l'agression, mais nie depuis le début l'intention de tuer.
Et cet homme est en détention provisoire depuis les faits. Il encourt la réclusion à perpétuité. On suivra ce procès sur votre radio ici.
Procès qui s'ouvre donc aujourd'hui à la cour d'assises du Loir-et-Cher. 5h34, la météo. En matinée, c'est une nouvelle perturbation qui apporte un ciel couvert et des pluies soutenues sur la Bretagne, puis vers la Normandie. Notez bien, le Finistère entre en vigilance orange, puis inondation à partir de 6h. Cet après-midi, les pluies gagnent les Pays de la Loire et l'ouest des Hauts-de-France, puis glisse des Ardennes à l'Aquitaine en cours de nuit prochaine. Le vent lui souffle de 50 à 70 km/h sur un grand quart nord-ouest, des pointes jusqu'à 100 km/h sur les côtes. Sur le Languedoc-Roussillon et le sud du Massif central, les entrées maritimes là sont toujours présentes. Elles donnent encore des pluies assez régulières sur les Cévennes. Le vent va se renforcer là aussi des Pyrénées au Massif central et en vallée du Rhône. Sur le reste du pays, c'est une matinée assez calme qui est annoncée par Météo France avec des brouillards tout de même qui sont fréquents dans le sud-ouest et le nord-est avant un temps qui redeviendra plus lumineux cet après-midi. Les températures à Clermont-Ferrand 6 degrés, à Bordeaux et Toulouse 7 ce matin, à Tours, Rennes, Caen et à Metz 8. Nous avons à Paris, Nantes et à Nîmes 9, 10 à Marseille. Aussi vos messages sur la page Facebook ici. 5 degrés relevés en Alsace à Bretno par Tania, 7 à Beaulieu-sur-Dordogne, en Corrèze, on salue Rosita, 8 degrés à Nice, merci Caroline, 10 degrés 2, c'est à Inde, près de Lens, on salue Sébastien, puis 11 degrés à Béziers, nous dit Martine. Pour les maximales, de 9 à 13 degrés sur la moitié nord, on attend entre 10 et 15 degrés dans le sud, et jusqu'à 18 degrés vers le Pays Basque.
ici.
Actu locale, musique et bonne humeur.
5h35, merci de débuter cette journée avec votre radio ici. C'est clairement le bon réflexe. Info, musique et bonne humeur au menu de votre petit déjeuner. Et on sait vous faire démarrer la journée du bon pied. La preuve avec Maxime Le Forestier. En bas là-bas, bon jeudi.
Donne-toi, ça pour la paille, tu peux gagner, tu fais du kata kata dans mon lacasse. En bas là-bas, en bas là-bas, en bas là-bas, tout mousse, mousse, salade en bas là-bas. En bas là-bas, en bas là-bas, en bas là-bas, tout mousse, mousse, salade en bas là-bas. Mon la ligne à pendant qui pêche poisson dans l'eau brisant. Tout ce que tu besoin, me donne-toi. Tu robes à fleurs, me donne-toi. Ça pour la paille, tu peux gagner. Tu fais tout kata kata dans mon lacasse. En bas là-bas, en bas là-bas, en bas là-bas, tout mousse, mousse, salade en bas là-bas.
Maxime Le Forestier en Balaba, 5h39 sur votre radio ici.
Ici, dès 5h,
Johan Guérin.
Info, musique, bonne humeur, c'est le credo. Et toujours un œil aussi sur les arnaques. Vous en avez d'ailleurs au début, ce qui est une nouvelle.
Oui, vous savez, Johan, quand vous recevez un faux texto pour un faux PV de stationnement, vous flairez le piège, mais vous n'êtes pas forcément tiré d'affaire. Je vais vous raconter.
Côté musique, pour le réveil. The Police arrive avant 6h, mais avant, c'est Béatrice qui est avec nous, qui nous appelle depuis le Var. Bonjour Béatrice.
Bonjour.
Soyez la bienvenue, ma chère Béatrice.
Eh bien, écoutez, enchantée.
Bah, enchantée. Ouais. Mais oui, mais faisons connaissance, Béatrice.
Mais oui, mais enfin, je crois que je vous ai déjà eu.
C'est vrai?
France Bleu. À cette époque, vous tiez, hein,
exactement.
C'est toujours
nous. Mais c'est toujours nous. Ça reste voilà, la même identité, c'est nous la même identité.
Philippe Richard aussi, je fais coucou d'ailleurs.
Ah mais oui, mais vous parlez de l'équipe de Provence, de France Bleu Provence à l'époque. Ah mais oui. Ah mais c'est vrai, bah alors franchement, bah alors on a gardé un petit lien Béatrice, parce qu'effectivement c'est vrai que j'ai travaillé sur cette antenne de France Bleu Provence à l'époque, qui est devenue Ici Provence, donc vous avez voilà, une super mémoire Béatrice.
Eh bien oui, hein, ça m'arrive, mais enfin mais je vous écoute régulièrement depuis 15 ans, alors enfin voilà.
Ah bah ça me fait hyper plaisir de vous retrouver ce matin. Vous savez quoi, on va tout arrêter ce matin sur cette matinale, on va prendre un petit café ensemble.
Ah mais on vous laisse. Si vous voulez.
Bah très bien. Ah bah franchement, vous voyez, Aude, Béatrice est partante pour ce café. On va l'organiser en tout cas. Bon, ma chère Béatrice, je découvre que vous êtes bien investie dans le milieu associatif, dans le Var notamment, pour promouvoir la danse, c'est ça? Vous adorez danser, vous?
Non. Enfin, c'est-à-dire que bon, moi j'adore la danse, j'adore le rythmique, j'adore faire du sport. Actuellement là, bon, moi je suis sur la Croix-Valmer, mais on fait beaucoup de choses, hein, renfort musculaire, step, marche nordique, paddle, voilà quoi, on a tout ce qu'il nous faut, hein. Je remercie quand même toutes les mairies limitrophes de Saint-Tropez, parce que c'est une place importante le sport, hein, dans notre
c'est vrai.
Voilà, exactement.
Ça c'est vrai. Et en tout cas, Béatrice, non mais c'est vrai qu'en plus c'est un coin paradisiaque aussi, et parfait pour faire du sport en plein air, notamment chez vous dans le département.
On a la mer pas loin.
Ah bah ouais.
Tout à fait, hein.
Ça, c'est un bel avantage. En tout cas, Béatrice, nous, ce matin, on vous offre une carte carburant de 50 euros. C'est une journée qui débute bien. Ah bah moi aussi. Et puis, on va s'organiser ce petit café, Béatrice, on se le promet.
Si vous voulez, j'apporte les croissants, c'est pas
Ah, c'est formidable, ça je valide. On vous souhaite une belle journée, Béatrice.
Et bien, de même, et merci de m'avoir sélectionné.
Un plaisir, à bientôt.
Tous les jours à midi, au Taquet, avec Éric Bastien et Valérie Danito.
Sympa ! Cette semaine, ici et la ville de Nice vous font prendre le soleil en plein hiver. Vous jouez pour un week-end pour deux.
Les 21 et 22 février, on vous offre l'aller-retour, la nuit d'hôtel, le petit déjeuner.
Sympa ! Et le carnaval !
Au Taquet, écoutez tous les jours, ici, dès midi. Ici, dès 5h.
C'est pas vrai, le rendez-vous anti-arnaque. Aude, vous nous alertez sur l'arnaque à la double détente, parce qu'elle fait des ravages.
Oui, qu'est-ce que c'est l'arnaque à la double détente? C'est quand on se fait arnaquer deux fois, coup sur coup. Je vous raconte ce matin l'histoire de Florent. Florent, c'est un collègue et il m'écoute. Là, en régie, j'ai un peu la pression. Coucou Florent, je vais essayer d'être fidèle à ce qu'il m'a raconté. Florent reçoit un jour un texto pour un PV de stationnement. Il clique sur le lien qui lui est proposé et là, il tique un peu. Il me dit, je trouvais que le site était bizarre, donc il ne fait rien, il ferme tout. C'est là qu'arrive la deuxième arnaque, la seconde détente. Le soir même, son portable sonne. « Je suis votre conseiller bancaire », dit le monsieur au bout du fil. « Est-ce que vous n'auriez pas cliqué ce matin sur un site un peu étrange ?» Florent répond que oui. Et le banquier, enfin le faux banquier, lui dit qu'un prélèvement de 2400 euros est en cours sur son compte en banque et qu'il faut réagir très vite. Il lui envoie une sorte de notification sur son téléphone. Florent clique et patatras, il ne voit pas qu'il est en train de valider le débit de 2400 euros.
Mais est-ce que Florent a pu se faire rembourser ?
Oui, et il a même réussi à faire arrêter le voleur. Je vous raconte, Florent comprend son erreur, il contacte sa banque, la vraie. La banque refuse tout net de le rembourser. Monsieur, vous avez validé le paiement, vous êtes fautif, pas de remboursement. Mais là où Florent a beaucoup de chance, c'est que le voleur n'était quand même pas bien malin. Sur le débit, Florent voit écrit 2400 euros Airbnb.
Ah oui.
En fait, son argent a été utilisé pour payer une réservation. Florent appelle Airbnb, l'entreprise le rembourse illico et cerise sur le gâteau. Elle appelle la police et la police s'en va accueillir le malfaiteur dans le chalet savoyard qu'il avait réservé, pris la main dans le sac.
Ah, elle est folle cette histoire. En tout cas, merci beaucoup Aude pour ce point de vigilance chronique à retrouver sur ici.fr page C'est pas vrai. Et merci à Florent aussi de nous avoir partagé, parce que c'est ça aussi, la solidarité, elle s'exprime chaque matin. Et vous pouvez nous écrire sur ici.arnaque@radiofrance.com. 5h45, voici Zao de Sagazan, la symphonie des éclairs sur votre radio ici.
Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage, je traverserais les nuages comme le fait la lumière, j'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. Dès sa plus tendre enfance, elle ne savais pas parler autrement qu'en criant tout bas. Pas faute d'essayer de les retenir, ces cris et ces larmes qui les faisaient tant. Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage. Je traverserais les nuages comme le fait la lumière. J'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. En grandissant, rien ne s'est calmé. Petite tempête s'est trouvée des raisons de pleuvoir autant. Qui pourrait l'aimer franchement? Personne n'aimerait se retrouver au cœur d'une tempête avouée. Il y a des raisons de pleurer, elle a ses raisons, mais il fait toujours beau au-dessus des nuages. Et moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage. Je traverserais les nuages comme le fait la lumière. J'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. S'échapper du vent et se retrouver dans le cœur des gens, celle-ci s'est dit. Nulle raison d'envier le soleil, je ferai danser les gens. Rythme de mes pleurs, la tourmente de mes chants viendra réchauffer les cœurs, réchauffer mon cœur.
Zao de Sagazan avec la symphonie des éclairs. Tiens, aujourd'hui, on fête un anniversaire, celui d'un grand journal. 200 ans pour le Figaro.
Ah, quand même.
On en parle dans moins de deux minutes. 5h48, retrouvons l'équipe d'ici matin pour un point sur l'actualité qui va marquer votre journée. L'info près de chez vous, c'est ici. Bonjour.
On espère que vous allez bien ce matin. Bonjour Johan et bonjour Marie d'Orsay.
Bonjour Marc, bonjour tout le monde.
On vous écoute, on se retrouve dans 10 minutes. Qu'y aura-t-il à la une ce matin?
On reviendra sur cette affaire jugée à partir d'aujourd'hui aux assises du Loir-et-Cher, celle d'une tentative de féminicide. C'était le 13 décembre 2022. Ce jour-là, Chloé, 24 ans, veut porter plainte contre son ex-compagnon, invité à revenir le lendemain. Elle est agressée et laissée pour morte quelques heures plus tard. Elle passera 2 mois dans le coma et souffre encore de graves séquelles. À 2 mois tout pile des élections municipales, nous irons aussi dans un village de la Beauce où la maire a bien du mal à recruter des femmes pour sa liste. Elle a l'obligation de respecter la parité, mais ce n'est pas si simple.
Je vais rencontrer les personnes en leur expliquant le rôle d'un conseiller municipal, enfin, en les rassurant aussi, en disant que c'est quand même quelque chose qui est à la portée de beaucoup de personnes. Les réticences, c'est vraiment la première crainte, c'est « j'aurai pas le temps ». C'est la première chose qu'on me dit.
Un reportage à la Chapelle Onzerin dans nos journaux ce matin. Et puis, le projet d'agrandissement de la ZAC Charbonnière à Marigny-les-Usages dans la métropole d'Orléans va-t-il détruire une zone humide? Des associations veulent en tout cas stopper le processus. On vous explique.
Bon, pour la météo, bah, ça ne va pas beaucoup changer hein, par rapport à hier. On aura peut-être un petit peu de soleil, mais surtout encore pas mal de nuages. Peut-être quelques gouttes de pluie déjà hein, chez vous ce matin. Il peut y avoir quelques bruines. Et puis du vent. On pourra avoir des rafales parfois costauds jusqu'à 60 km/h, surtout en fin de journée. La météo, les infos, on vous prépare tout et on se retrouve dans 10 minutes.
Ici, dès 5h.
Pour bien commencer la journée.
5h49, la une de la presse.
15 janvier 1826, c'est le lancement du journal Le Figaro. Et donc, si je compte bien, Johan, 1, 2, 3, 4, 5, 20, ça fait 200 ans.
Exactement, vous êtes plutôt bonne en mathématiques. On est avec Guillaume Perrault, rédacteur en chef en charge de l'histoire au Figaro. Bonjour Guillaume.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin, ce jour si particulier. Déjà, comment est né le journal Le Figaro et comment est-ce qu'il est passé de la petite feuille à un grand quotidien?
Il est né en 1826 dans le contexte de la Restauration qui n'était pas propice à la liberté de la presse. Et c'est deux hommes de lettres qui l'ont fondé. À l'époque, c'était un hebdomadaire littéraire parce qu'on n'avait pas la liberté de parler de politique. Donc, pour contourner la censure, on essayait de parler de politique en parlant littérature, en fait. Et le quotidien, lui-même, il prend cette périodicité périodicité de quotidien, pardon, à partir de 1866. Donc on peut dire que le Figaro est un grand quotidien national depuis la fin du Second Empire.
Et ce nom d'ailleurs, le Figaro, on le doit à Beaumarchais, hein, c'est ça ?
Oui, les fondateurs du titre ont eu l'idée assez géniale de se réclamer du patronage du célèbre personnage de Beaumarchais dans Le Mariage de Figaro. Et nous avons d'ailleurs la chance, la joie, grâce à la Bibliothèque nationale, d'accueillir à notre exposition le manuscrit de travail du Mariage de Figaro, annoté de la main de Beaumarchais lui-même, ce qui est une grande joie pour nous. Et on peut montrer le célèbre monologue de l'acte 5, et c'est là, c'est à la page à laquelle il est présenté au public, dans sa vitrine, où Beaumarchais a écrit « Sans la liberté de blâmer, il n'est point d'éloge flatteur ». Et comme vous le savez, c'est la devise de notre journal.
C'est vrai. À travers ces 200 ans, est-ce qu'il y a un moment qui vous a peut-être un peu plus marqué, vous, Guillaume ?
Alors moi, ce qui m'a frappé, c'est la place du Figaro dans la vie culturelle, littéraire et artistique tout le 19e siècle, et en particulier à la Belle Époque. Ce qui est très frappant, c'est le nombre des grands écrivains qui ont écrit dans le Figaro au 19e siècle. À l'époque romantique, Gérard de Nerval, Georges Sand, Théophile Gautier, et sous le Second Empire, le jeune Émile Zola, Jules Vallès, qui était pourtant socialiste, mais que le Figaro a publié un certain temps, et puis aussi Baudelaire. Alors, les relations entre le Figaro et Baudelaire avaient mal commencé, mais ensuite ils se sont réconciliés, ça arrivait souvent à l'époque. Et tous les grands noms du 19e siècle, Alphonse Daudet pour les Lettres de Montmoulin, ont été publiés dans le Figaro. Et puis si on avance dans le temps, début 20e siècle, Marcel Proust est un chroniqueur célèbre du Figaro avant la guerre de... Enfin, il est célèbre maintenant, mais à l'époque, il commençait. Il a publié un certain nombre de textes marquants dans le Figaro avant la guerre de 14.
C'est vrai que cette lignée, elle est assez, assez magnifique. Vous parliez de Zola parce que le Figaro a aussi eu un impact, on peut dire, dans l'affaire Dreyfus.
Absolument, on peut dire que le Figaro lance l'affaire Dreyfus. Il n'y avait pas à proprement parler d'affaire Dreyfus en 1897, parce qu'on ne parlait guère plus du capitaine Dreyfus qui était à l'île du Diable. Et à l'automne 1897, le premier défenseur vraiment fort de Dreyfus, qui s'appelle Bernard Lazare, qui était un journaliste qui collaborait occasionnellement au Figaro, contacte, d'accord avec la famille de Dreyfus, la direction du Figaro, et le Figaro commence une campagne de presse très intense, très marquée, très courageuse, je crois qu'on peut le dire, pour défendre le capitaine Dreyfus. Et à ce moment-là, le Figaro est seul, absolument seul, dans la grande presse de l'époque, à le défendre.
Mais en tout cas, c'est absolument passionnant. Guillaume Perrault, merci de votre présence ce matin. Évidemment, on souhaite à toute la rédaction un bon anniversaire. Il y a aussi une exposition, j'en profite, qui retrace cette histoire qui est à découvrir au Grand Palais à Paris jusqu'à demain. Et c'est gratuit donc pour les 200 ans du Figaro. 5h53, parlons d'une nouvelle tendance, inviter des inconnus à son mariage.
Ouh là là.
Vous le feriez ou pas ?
Non, faut les nourrir en plus.
En plus,
non.
Bah oui, bah non. Certainement pas. Muriel Jordan se penche sur la question dans 3 minutes. Mais avant, place à The Police, Don't Stand So Close To Me.
Young teacher, the subject of schoolgirl fantasy. She wants him so badly, knows what she wants to be. Inside her, there's longing, this girl's an open page. Bookmarking, she's so close now, this girl is half his age.
Don't stand so close to me, The Police, à 5h56. Et nous, chaque matin, on reste au plus près de vous, évidemment. C'est Tendance, votre rendez-vous entre info et humour. Avec Muriel Jordan, tous les jours, on apprend à mieux connaître ce monde qui va trop vite. Aujourd'hui, on parle d'un nouveau concept, inviter des inconnus à son mariage.
Oui, c'est la proposition d'une start-up, Invite-In, qui propose aux futurs mariés de faire payer l'entrée à quelques invités pour financer la fiesta. Car après la demande en mariage, vient généralement la demande de prêt à son banquier. Parce qu'il faut bien financer tout ça. Et le banquier, bah, il vous jure pas toujours fidélité. Apparemment, d'après les chiffres du salon du mariage, les couples dépensent en moyenne 16 000 euros pour se marier. C'est 600 euros de plus qu'en 2024. Et c'est là qu'Invite-In intervient, en vous aidant à payer les frais. Pour ça, bah, il faut accepter que des inconnus assistent à votre mariage. Ils achètent les billets sur le site, moyennant entre 150 et 400 euros. En échange, ils assistent à la fête, voire à la cérémonie. Alors ça, c'est vous qui choisissez, hein. Vous restez bien sûr maître de votre événement.
Et au-delà du coup de pouce financier, Muriel, c'est aussi un moyen de créer du lien social finalement.
Oui, parce que les mariages sont des super moments où les gens s'amusent, ça permet de faire des rencontres. Pour en savoir plus, je contacte sur WhatsApp Katia Lekarski, fondatrice de Invite-In. Elle m'explique que l'idée lui est venue après une conversation avec sa fille en mai 2024. Elle venait de louer son logement dans le Gard à 12 personnes à l'occasion d'un mariage.
Et là, elle me demande, mais pourquoi est-ce que nous, on n'est jamais invités à des mariages? C'est quand même un bel événement, c'est positif. Voilà, mes amis sont presque tous mariés, mais je ne peux plus faire partie de ce moment exceptionnel. Donc je me suis dit, en fait c'est ça, il faudrait que j'arrive moi à me payer une place et de cette façon contribuer un petit peu au financement des futurs mariés.
Et pour les gens qui achètent les billets pour le mariage, c'est l'occasion pour eux de vivre une expérience sympa dans des lieux où ils n'iraient pas forcément. Un château en Provence, un vignoble, une ferme, un domaine privé.
C'est une façon aussi de voyager puisque de cette façon on peut découvrir une nouvelle façon de vivre, une autre culture, une région et un patrimoine, en voyageant même dans d'autres pays, c'est une façon de découvrir d'autres traditions.
Et Katia m'explique aussi que le site vérifie systématiquement le profil de la personne qui veut participer au mariage, histoire de ne pas se retrouver avec un boulet qui va piquer le bouquet de la mariée, piller le buffet sous 3 grammes d'alcool et finir avec les démons de minuit à danser sur les tables avec vos papas. En tout cas, son concept fait des émules.
On a eu un vrai engouement international, puisque maintenant, d'autres pays nous demandent de proposer la solution dans leur pays. Et de cette façon, nous avons des mariages dans d'autres pays, même très lointains, comme en Inde, en Amérique latine.
Bref, inviter des inconnus à son mariage pourrait devenir tendance. Et ce soir, la créatrice du concept sera sur M6 dans Qui veut être mon associé. On espère pour elle qu'ils lui diront un gros oui.
Merci Muriel Jordan. Et nous, on vous dit un grand oui chaque matin. Plus tôt, tiens, qu'une invitation à un mariage, on a une autre invitation ce jeudi avec l'équipe d'ici matin qui nous rejoint. Passez une très très belle journée, un bon jeudi.
Allez, merci beaucoup Johan, à demain avec plaisir. Bonjour Marie Dorset.
Bonjour Marc, bonjour à toutes et à tous.
On se réveille ensemble dans le Loiret, le Loiret-Cher. Et allez, on parle littérature, tenez, ce matin. Vous vous souvenez de Pierre Lemaître?
Oui, bien sûr.
Au revoir là-haut, entre autres.
Couleur de l'incendie.
Voilà, ses plus gros succès. Il vient de sortir le dernier tome de sa saga consacrée aux 30 Glorieuses, sorti il y a à peu près 10 jours. Carton plein, hein, en quelques années.